Bonjour, Véronique Averrousse, je suis médecin en soins palliatifs et je dis un petit mot, Brigitte Estève Belbeau, qui est prof de philosophie et inspectrice auprès des enseignants de philosophie. Moi-même donc intéressée par la question de la finitude, de la fin de vie, de la mort, et Brigitte ayant beaucoup travaillé en psychiatrie, donc intéressée par la question de la folie. Donc j'avais rencontré Jean Lauxerrois lors d'un colloque à Grenoble, s'intitulant Éthique de la honte. C'était un colloque psychanalytique et philosophique, et donc Jean Lauxerrois traitait de la honte chez les Grecs. Donc ce sentiment, cette notion m'intéresse, notamment dans le lien avec la mort, comme sentiment limite. Honte comme marqueur de la limite ou défaut d'être. Nous étions au cœur de votre réflexion, Jean. Donc, en quoi, je pose une grande question et je donnerai la parole à Brigitte. En quoi la pensée grecque a continué à donner une place centrale à la limite et au défaut d'être? Qu'est-ce que ce défaut d'être? Et que nous dit-elle de l'homme? Que nous dit-elle de l'homme qu'elle nomme Brotos, cette pensée grecque? Et non anthropos, brotos en tant que mortel, en quoi cela pourrait ouvrir sur l'impensable contemporain de la mort et du mourir, puisqu'on sait que dans notre monde, il y a quand même un déni très marqué de la mort. Brigitte, je te laisse la parole.
Merci Véronique. Alors, je ne vais absolument pas être longue pour le moment. Si Jean Lauxerrois le permet, je l'interrogerai avec vous à la fin. Je voulais juste peut-être dire deux, trois choses très rapidement. Une première qu'il ne pourra pas dire, et vous allez comprendre pourquoi, c'est que dans cet ouvrage, il fait preuve de ce que Nietzsche appelle une grande probité philologique. Il présente une exigence dans la traduction qui est remarquable, et un souci philosophique du sens de son propos, toujours relié à la question de la littérature, à la question de la philosophie, et à une dimension qui les unit, qui est à la fois la tragédie et l'éthique. Alors voilà, je résume très très rapidement les choses, et il développera ça nettement mieux que moi. Mais je voulais aussi ajouter une petite chose qui est l'intérêt donc de son ouvrage dans un contexte qui nous touche tous et qui mériterait, s'il me permet cette manière de procéder, de commencer presque par la fin. C'est-à-dire qu'à la fin de son ouvrage, il parle de ce qu'il en est de notre situation de mortel qui ignore sa mortalité ou sa finitude. Et partant de là, il nous montre comment, finalement, l'accès au monde grec qu'il veut bien nous ouvrir nous donne, non pas un mode d'emploi, mais en tout cas un chemin pour essayer de nous relier à cette essence d'être mortel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire et que je vous invite, bien sûr, à découvrir dans son ouvrage. Je terminerai juste cette présentation en vous disant que peut-être, et il me dira s'il est d'accord avec cette lecture, peut-être tout l'ouvrage est une tentative pour expliquer cette expression qui, a priori, fait sens pour tout un chacun, la beauté des mortels, et qui pourtant n'est pas le sens obvi. Donc je lui livre cette hypothèse-là, peut-être l'acceptera-t-il. On va voir ça dans un instant ensemble. Et je voudrais juste signaler pour terminer que dans son ouvrage, il nous propose quelque chose qui est de l'ordre de la patience. Quand on lit son ouvrage, on est à contre-temps. On n'est pas dans agir vite, travailler vite, produire vite. On est dans prendre le temps, essayer de reprendre contact avec un univers où la patience est vraiment de mise. Et à partir de cette patience qu'il va nous obliger à cultiver, eh bien, petit à petit, on va faire le lien entre un accès au divin, un sens de la limite, l'importance de la folie et l'intuition de la vie en commun. Je le laisse, bien entendu, nous expliquer tout cela.
Alors, écoutez, merci de vos paroles si généreuses. Véronique Averrousse, merci de donner un beau prolongement à notre rencontre de Grenoble sur la honte. Et à Brigitte Estève Belbeau d'avoir déjà si vite cueilli ce qui était mon intention, en effet. J'espère que je vais pouvoir éclairer un peu ces différents chemins. Alors, écoutez, je vais essayer de présenter rapidement cette intention philosophique et qui est aussi, je pense, poétique, parce que les deux se tiennent pour moi, j'expliquerai pourquoi, sous la forme de, modestement en référence à Descartes, de cette réponse à deux objections. La première objection, qui était souvent amicale, c'était de dire encore un livre sur les Grecs. Parce qu'effectivement, l'époque voit sortir pas mal d'ouvrages sur la Grèce. C'est un signe, tant mieux, mais je vais quand même répondre à cette objection. La seconde objection, c'est encore et toujours pourquoi les anciens ? Qu'est-ce qu'ils ont encore à nous dire aujourd'hui, après tout ? Alors, encore les Grecs, je commence par là. Oui, mais quels Grecs ? Au fond, je crois qu'il y a aujourd'hui un risque dans ce que j'appellerais une conception patrimoniale de la culture, qui est très dominante aujourd'hui, qui tend à figer, qui tend à beaucoup presque muséaliser les choses, qui fixe un peu trop le rapport à la mémoire, qui fixe le rapport à la tradition du passé. Et de ce point de vue-là, nous avons, nous, Français, ce n'est pas nécessairement la même chose en Allemagne, par exemple, nous avons eu tendance à privilégier, on va dire, une réception liée à la Renaissance et à l'humanisme, reliée à ou développée par le rationalisme, disons, du XIXe siècle à la française. Tout cela a donc contribué, c'est très bien d'ailleurs, à former une certaine image de la Grèce. Or, de quoi s'aperçoit-on quand on regarde avec le recul ? C'est que l'Occident n'a jamais cessé de transformer son regard sur la Grèce. Autrement dit, de Rome au père grec de l'Église, de ses pères au Moyen-Âge, du Moyen-Âge à la Renaissance, de la Renaissance au XVIIIe siècle allemand et au XIXe siècle toujours allemand, philosophique, poétique, puis la philologie du XXe siècle, ça n'a cessé de changer. Donc, c'est une métamorphose qui est tout à fait passionnante parce que ce sont des successions d'inflexions, d'enrichissements, de variations qui font bouger cette Grèce et ce rapport à la Grèce. L'outil majeur de cette métamorphose continuée, c'est la traduction et même la retraduction. C'est-à-dire que nous avons affaire, grâce à la traduction, à ce sens qui se déploie presque infiniment à partir des grandes œuvres. Chaque époque retraduit. Ce livre, je peux le dire simplement, est né de la retraduction de Sophocle, notamment, de Platon, d'Aristote. Et j'insiste sur le fait que, effectivement, ça n'est pas simplement une décision subjective de traduire autrement. Chaque époque réclame, d'une certaine façon, que, à travers la subjectivité d'un traducteur, on puisse trouver un lien fort, nouveau, avec le sens qui n'est pas un sens caché, qui est un sens là, mais qu'il faut en quelque sorte éveiller. Et précisément, mon travail de traduction m'a permis de, d'un coup, mettre en cause, en question en tout cas, cette dominante que je disais tout à l'heure de la réception humaniste de la Grèce. Pourquoi ? Parce que humanisme, homme, les Grecs avaient deux mots pour cela. L'homme de constitution ordinaire, comme dirait Rimbaud, chez les Grecs, cet homme de constitution ordinaire est moins ce que nous appelons l'anthropos de l'anthropologie que, comme il était dit tout à l'heure par Véronique Averrous, le brotos. Pourquoi les Grecs avaient-ils deux mots pour nous dire l'homme ? Eh bien, justement, là, était la question, et là est encore, à mon sens, la question. Parce que, constamment, de Homère jusqu'à la fin de la grande tragédie, Euripide, c'est toujours le mot brotos qui l'emporte, c'est-à-dire le mortel. Jamais, ou très rarement, anthropos. Le mot anthropos commence à émerger avec la philosophie. C'est-à-dire, d'abord, la sophistique avant les philosophes. Alors, quelle est la différence entre les deux ? La mort fait la différence. C'est-à-dire que anthropos doit se comprendre au regard de cette fameuse phrase que le sophiste Protagoras énonce, l'homme est la mesure de toute chose. Anthropos. Là, l'homme est la mesure de toute chose. C'est la référence, c'est lui le centre, c'est lui l'étalon. Et cet anthropos se comprend, je dirais, comme déterminé. Il est un faisceau de détermination. Brotos, à l'inverse, ne se conçoit, lui le mortel, qu'en rapport avec ce qu'il n'est pas. Autrement dit, ce n'est pas lui le centre, il est en relation avec quoi ? Avec les dieux, avec la nécessité, avec le temps, avec le monde, avec les autres, avec la communauté, etc. Autrement dit, tout ce qui constitue le mortel, si c'est ce qu'il n'est pas, c'est ce que j'appelle son défaut d'être. Au lieu d'être un être plein, il est un être en défaut. D'une certaine manière, tout ce négatif, ce qu'il n'est pas, est plus important que ce que pourrait être, en langage moderne, sa nature, son essence, sa détermination, son droit, etc. C'est le sens de la fameuse formule qu'on trouvait au temple d'Apollon, Gnoti Seoton, que Socrate reprendra. Cette formule n'est pas un impératif psychologique ou anthropologique. Quel est le sens de ce fameux « connais-toi toi-même » ? Tout simplement, ne te prends pas pour un dieu, connais ta limite, sache qui tu es au sens de cette limite. Donc le propre du mortel, c'est de toujours oublier qu'il est mortel. Sinon, il serait un dieu. Donc, l'impératif qui se trouve au temple d'Apollon induit le mortel au sens de la limite. Et ce sens de la limite a un nom en grec qui résume, parce qu'on ne peut pas le traduire d'un seul mot, qui résume à la fois la pudeur, la réserve, la distance, la vergogne, l'humilité, la modestie, etc. Beaucoup de choses, selon les contextes, tel ou tel sens domine, c'est eidos. Depuis Homère jusqu'à la fin de la tragédie, eidos est l'impératif qui marque précisément le rapport du mortel à lui-même, sous le signe de la limite et sous le signe du défaut d'être. À quoi donc alors induirait une telle limite et un tel sens de la limite ? Eh bien, à tout le contraire de ce qu'on imagine, si l'homme est un être limité, ça pourrait être le repli, déploré, désolé sur sa faiblesse. C'est le contraire. Ce qui est intéressant chez et plus que ça encore chez les Grecs, c'est que la limite, le sens de la limite, est une ouverture. C'est une ouverture, au fond, c'est cela le grand enjeu de la limite. Qu'est-ce que horizein, délimiter, c'est ouvrir un horizon. Donc la limite n'est pas quelque chose qui ferme, mais quelque chose qui ouvre. C'est ce à partir de quoi commence quelque chose. Donc elle marque le commencement et le propre du mortel, c'est d'être un être du commencement. L'important, c'est quelle suite on va donner à ce commencement. Eh bien, il ne peut y avoir de suite que dans l'ouverture multiple. L'ouverture d'abord, je reprends ce que je disais, à ce qu'il n'est pas. Les dieux, le temps, la mort, le monde, la nécessité, etc. Tout ce qui va donc l'inclure dans son dehors. Et son dehors, en particulier, c'est le fameux cosmos, le monde. Le monde, c'est une dimension fondamentale pour les Grecs parce que tout est, en effet, dans le monde. Même les dieux sont dans le monde, ils s'y manifestent. Et c'est cela aussi qui donne le sens de la beauté, parce que l'optique grecque, c'est de toujours s'étonner, voire de s'extasier sur cette beauté du monde que l'on habite, auquel on doit participer de manière active et constructive. Cette forte présence du monde, elle est dans toutes les œuvres, dès Homère jusqu'à la tragédie et même dans la philosophie jusque chez Aristote, ce fameux étonnement prend sens ici. Et puis enfin, l'ouverture à soi-même. C'est-à-dire, il y a le commencement, il y a le devenir. Il faut que l'homme s'ouvre, dans le sens de cette limite, à ce qui va être son accomplissement. Donc le grand terme que les Grecs ont mis en œuvre, c'est justement le mot « œuvre ». Œuvrer, c'est pas simplement faire œuvre d'art. Œuvrer, c'est tout ce qui va permettre, par ce qu'on pourrait appeler le supplément d'être, qui peut être la techné, l'art, l'artisanat, la technique, ça englobe tout cela. Ce sont aussi des éléments de la technique politique. Tout ce qui va permettre alors de réaliser la construction de soi dans la relation avec autrui, avec la cité et avec les dieux, bien évidemment. Donc, le mot fort qui est grec par excellence, c'est poiein, d'où vient le mot poésie. Mais pas la poésie au sens de faire des vers, poiein au sens de créer, et une création qui est multiple et sous différents horizons. Donc, il n'y a jamais d'art chez les Grecs, contrairement à ce qu'on dit. Il n'y a que de l'œuvre d'art. Ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas une sorte d'idéal de l'art. Il y a essentiellement l'œuvre d'art qui permet de manifester la relation au beau et qui sert symboliquement pour montrer que toute la vie personnelle, commune, est œuvre. Alors, si le commun, si le singulier, si les dieux, si le monde sont affaires de liens, eh bien, on comprend mieux pourquoi l'autre terme clé que j'essaye d'explorer à travers différents textes, l'autre terme clé de ce monde grec en dehors de l'œuvre, c'est la fameuse philia. Donc, je vais essayer d'expliquer ce qu'est cette philia, que l'on trouve aussi bien dans l'Iliade que dans Antigone de Sophocle, que dans l'Éthique à Nicomaque d'Aristote, continuellement cet éloge de la philia. Qu'est-ce que cela veut dire ? On dit « amitié ». C'est la traduction la plus normale et qui n'est pas un contresens, bien sûr. Mais pour autant, quand on dit « amitié », on ne saisit pas pourquoi la philia est si importante. Philia se distingue d'éros, qui est un lien différent, et se distingue d'agapé, qui est encore un autre lien que le christianisme reprendra sous le sens du partage, etc. La philia est spécifique aux Grecs. Elle s'entend, par une traduction que j'emprunte à un ami philosophe aujourd'hui défunt, disparu, qui a proposé le mot d'amicalité. Pourquoi changer ? Pourquoi faire un mot en plus en français ? Pour la raison suivante. C'est que amitié a été, par notre tradition, Montaigne et la Boétie, a été réduite à ce qui unit deux êtres. C'est magnifique. L'amitié est un sentiment indépassable. Mais on perd ce que les Grecs ont voulu absolument nous mettre au cœur de notre expérience et de notre existence, à savoir le lien, sous toutes les formes, avec le commun. L'amicalité, c'est le sens du commun. Jusque chez Aristote, l'idée qu'entre un ami et un autre Ce qui se joue, c'est quelque chose qui a à voir avec la communauté. Ça, c'est une pensée philosophique forte et qui nous a, en Occident, totalement échappé. On a perdu profondément le sens du commun. On parle de société, on parle de collectivité, etc. Mais le commun fait défaut. Eh bien, ça a été justement le souci aussi bien de Homère dans l'Iliade, le souci de Sophocle dans Antigone, qui parle au nom de la philia, que de l'éthique d'Aristote, qui essaye de mettre au centre, plus haute que la justice encore, l'idée d'amicalité que l'on va pouvoir pratiquer dans toutes les relations humaines. Le vivre ensemble, comme dit Hannah Arendt, voilà effectivement ce qu'était déjà le sens de cette philia. Alors tout irait bien, il suffirait donc de tisser les fils de la philia dans le sens de la limite, et puis le monde serait parfait. Mais les Grecs ont compris quand même que le mortel reste un mortel. Il y a des obstacles pour œuvrer, pour habiter le monde. On est toujours sous la menace ou dans le péril de dépasser la limite, d'oublier la limite où cette réalité est mortelle. Le monde peut tourner, le cosmos peut tourner au chaos. Voilà qu'il se défigure. Et puis, il y a la folie humaine. Et eux ont mis la folie au centre aussi de leur expérience. Autrement dit, la folie n'est pas accidentelle, elle est au centre de l'expérience du mortel. Alors, évidemment, la folie a différentes figures. Mais la folie, elle est tout sauf ce que nous pensons et surtout ne pensons pas à travers le mot folie. La folie n'est pas une affaire simplement, je dirais, organique, au sens fort et large du terme. La folie, chez eux, engage une expérience du commun. Pourquoi ? Parce que la force des Grecs, qui ont fait de la folie une aventure humaine, qui n'est jamais stigmatisée, une expérience du négatif qui est enrichissante, ils l'ont mise au centre du théâtre. Les Grecs inventent le théâtre parce qu'ils ont compris l'importance de la folie. Alors, premier exemple, Dionysos, le dieu que les Grecs vont chercher pour le mettre au centre d'Athènes. Ce Dionysos qui n'appartient à aucune divinité, à aucun registre des divinités anciennes, il est en quelque sorte de nulle part, il dérange tout. Homère, qui le connaît peu, dit simplement que c'est le dieu fou. En effet, c'est le dieu fou. Comment une cité comme Athènes peut mettre le dieu fou au cœur de son existence commune ? Eh bien, c'est cela le sens du théâtre, c'est-à-dire de la tragédie. Les Grecs ont inventé la tragédie justement parce qu'ils ont considéré, dans un théâtre qui n'est pas, comme on le dit, civique, parce qu'ils ont considéré qu'il fallait faire en commun cette expérience de la folie. Alors, l'épreuve de la limite dont on est en train de parler autour du mortel, cette épreuve de la limite engage la cité, non plus simplement à faire du théâtre un spectacle, bien sûr, c'est un spectacle, mais à en faire quelque chose de bien plus radical, puisque deux fois par an, tout s'arrête, toute la cité pendant 12 jours, en tout cas pour la grande fête des Dionysos, toute la cité pendant 12 jours, et je dis bien toute la cité, c'est-à-dire il n'y a personne qui échappe au public, toute la cité est au théâtre. Elle est au théâtre parce qu'elle a organisé l'écriture, parce qu'elle a organisé les chœurs, les répétitions des acteurs, tout est financé pour qu'on puisse justement avoir devant soi cette expérience folle, parce que le théâtre est tout de même une expérience folle. Et la grandeur de la tragédie grecque qui reste indépassée, parce qu'on a très peu de grandes époques tragiques, j'entends de la tragédie, il y a des époques tragiques, mais pas au sens où je l'entends ici, ces rares époques tragiques s'enracinent toutes dans la référence au monde grec, d'une manière consciente ou non, de manière délibérée ou non. Donc tout s'est joué sur cette extraordinaire 5e siècle, où Athènes, au comble de son développement, a réussi à faire du théâtre tous les ans. Rappelons-nous que jamais les pièces n'étaient rejouées. Pendant 90 ans, il a fallu toujours produire du nouveau. On produisait, c'était ça l'œuvre, on produisait des pièces de théâtre. 12 étaient sélectionnées, c'était une trilogie, etc., avec une pièce comique. Tout était organisé pour que la cité puisse faire en commun l'épreuve de la limite. Alors, il nous reste à poser la question de la philosophie. Parce que j'ai très peu parlé de la philosophie, vous l'avez remarqué. Et en effet, la philosophie fait rupture. Même s'il y a une continuité forte, notamment chez Aristote par rapport au monde grec, l'invention de la philosophie fait problème. Elle fait problème parce que Platon, et vous avez remarqué que dans philosophie, il y a la philia, il y a le lien amical avec quelque chose. Platon, qui fonde cette philosophie, propose en fait un autre regard sur le réel, un autre regard sur le mortel, un autre regard sur la folie, notamment. Mille autres choses dans ses œuvres, cette œuvre immense. Mais si on prend trois textes que j'essaye de prendre en référence, un dialogue de jeunesse, Ion, qui aura une grande importance à la Renaissance, c'est l'inspiration créatrice, notamment sous le signe de la folie créatrice, puis la République, grande œuvre s'il en est, puis le Phèdre, œuvre célèbre aussi où il est question de la folie. Platon cherche d'abord et avant tout à faire quoi ? Pas seulement à s'opposer aux sophistes, comme on dit, mais il s'oppose d'abord et avant tout aux poètes. Et quand il dit poète, il dit le théâtre. Quand il dit poésie, c'est du théâtre qu'il s'agit. Il fait d'Homère le premier des poètes tragiques. Pourquoi s'oppose-t-il ainsi à Homère ? À propos donc du dialogue Ion. Parce que Platon veut en finir avec Dionysos. Il veut en finir avec l'expérience commune de la folie. Il ne veut plus d'une cité qui soit précisément sous l'instance de cette expérience folle. Et c'est en ce sens-là qu'il va transformer le sens de la folie. Il va le décliner autrement. Et il va notamment inventer la folie d'Eros, qui n'était pas au programme chez les Grecs et qu'il a lui-même donc conceptualisé, si l'on veut, dans une invention qui va devenir déterminante ensuite pour notamment la Renaissance. La folie n'est donc pas rien. C'est le pivot de la grande mutation, mutation qui s'accompagne du fait que chez Platon, la question du mortel se transforme elle-même, puisqu'il est souvent, notamment dans Phèdre et d'autres dialogues, question d'immortalité. La pensée de l'immortalité commence à émerger. La séparation de l'âme et du corps, ce que les Grecs ignoraient avant lui. Donc, autour de ces mutations, nos enjeux modernes commencent à se dessiner. Et je tiens qu'en effet, le relais par la Renaissance, dont l'humanisme renaissant dans la traduction de Marcille Ficin, qui est le passeur de Platon au latin du XVIe siècle, du XVe siècle, alors on passe de la folie, comme je viens de la traiter à grands traits, au délire de la fureur. Et ce délire de la fureur, qui est certes inspiré, va petit à petit, je dirais, restreindre l'expérience de la folie, la restreindre en coupant, en quelque sorte, avec toutes les dimensions autres, et notamment, bien sûr, la question de la communauté dionysiaque au théâtre. Donc, la philosophie, magnifique invention, est aussi problématique. C'est ce que nous devons interroger aussi aujourd'hui. Quels sont les présupposés de cette naissance de la philosophie ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un brouillage qui s'est opéré de l'accès à la limite, de l'accès à l'être mortel et de l'accès à cette question complexe et décisive de la folie qui embrasse donc tellement de dimensions de l'activité humaine, dans la mesure où la folie, ça peut être, c'est pas simplement le fait de délirer, comme j'ai essayé de le dire rapidement. Donc, pour conclure, cette référence que je tente à la Grèce à travers mes quelques enjeux m'amène à poser la question du mortel aujourd'hui, c'est-à-dire du sens de la limite aujourd'hui. Je crois que nous sommes rentrés dans une époque qui souffre des choix qu'elle a faits depuis le début de la modernité, on va dire, de la puissance. C'est la puissance de l'ego, c'est la puissance du narcissisme qui l'accompagne, c'est la puissance de la technique, c'est la puissance de la rationalité, c'est la puissance, en quelque sorte, aux dépens de tout ce que la notion de limite pourrait instituer de notre constitution. Donc, nous sommes, au regard de cette dimension de la puissance, nous sommes dans l'errance, c'est-à-dire dans la difficulté, avec le sens de la mort, avec le sens du divin, avec le sens du commun, avec le sens de l'art, avec le sens de la folie et avec le sens de l'éthique. Tous ces éléments sont problématiques aujourd'hui et ils sont problématiques à raison même du choix qui a été fait d'un certain humanisme qui a sa gloire, mais aussi sa limite, avec les temps modernes. Donc, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de repenser cette question de la limite au regard des exigences multiples que disent les différents enjeux que j'ai énoncés. Je pense que la question de l'amicalité, la filia, est aussi posée comme sens du commun, au-delà des problèmes du singulier, du collectif, de la relation entre les individus sous le signe d'Eros. Comme dit Aristote, même dans Eros, on peut penser la filia. Et pour accomplir tout cela, je pense qu'il est question du rapport entre la pensée et l'agir. Et la pensée et l'agir, qui ont tout de même beaucoup de mal à s'accorder aujourd'hui, pourrait être éclairé, mais là encore, avec patience, bien évidemment, pourrait être éclairé selon le sens de l'œuvre que je disais tout à l'heure, sous le sens de l'accomplissement de soi, du commun, etc., à la mesure donc aussi d'une définition de l'homme qui serait, j'inclinerais à le penser, plus baudelairienne qu'humaniste, quand Baudelaire parle de l'être poétique de l'homme. Il ne parle pas du poète, il parle de tout homme. J'appellerais cela le commun des mortels. Qu'est-ce que le commun des mortels en jouant sur le sens? C'est cette capacité d'ouverture et la nécessité de s'accomplir, de se réaliser. Et en ce sens-là, peut-être, je l'espère, le mortel est moins une parole du passé que peut-être donc une exigence d'avenir. Voilà pour les quelques mots que je pouvais dire en présentant ma tentative.
Merci beaucoup, Jean, pour donc l'ensemble de cet exposé de votre livre. Je vais peut-être commencer par une question. Ensuite, je laisserai de nouveau la parole à Brigitte. Je voulais revenir sur cette notion d'amicalité. Si elle est féconde pour penser la communauté et le défaut d'être, elle est peut-être pour nous déroutante si on fonde, par exemple, l'éthique du soin sur la reconnaissance de l'altérité absolue de l'autre, d'autant plus qu'il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité. Et cette notion d'altérité absolue est quand même extrêmement importante et, je vais dire, entre guillemets, à la mode. Et elle se fonde, entre autres, bien entendu, sur la philosophie de Lévinas. L'autre comme... Voilà, donc je voulais poser cette question.
Tout à fait. Alors, partons peut-être de ce qu'on disait de la probité philologique tout à l'heure. Ce qui est tout à fait révélateur dans la langue grecque, c'est qu'il n'y a pas de mot pour l'autre. Il n'y a pas de mot pour l'autre. Et le mot qui existe, c'est le rapport en, sous la forme alléloï, c'est les uns les autres. C'est-à-dire à la fois le pluriel et le mutuel. Voilà, donc ce qui est important peut-être, là encore, si on raisonne sur la langue, c'est qu'il n'y a pas de l'autre parce qu'il n'y a pas le moi qui est lui-même instancié comme une référence absolue. Ce qui compte par rapport à ces deux pôles que seraient je et l'autre, c'est ce qui est à la racine de et qui les porte l'un l'autre. Donc je crois qu'on peut aussi essayer de penser l'idée de la relation de mutualité dans la filia comme beaucoup plus, je dirais, enracinant l'existence humaine que l'altérité comme une sorte de pôle absolu. Donc je serais, si vous voulez, non pas que je sois réservé par rapport à Lévinas, mais je suis réservé par rapport à l'idée de faire de l'autre un A majuscule, par exemple. Le commun des mortels, ce qui est commun aux mortels, c'est précisément cette mutualité du lien qui les dépasse et dans lesquels ils s'inscrivent et dans lesquels ils s'enracinent. Ça serait la première réponse possible. Donc je serais assez réticent à l'égard de l'idée d'altérité en soi, parce que l'idée d'altérité, au fond, elle n'est que la monnaie de la subjectivité ou de l'identité, comme l'alter ego est la monnaie de l'ego, d'une certaine façon. Et je pense que c'est intéressant de regarder du côté de la fameuse ouverture. Je pense que Lévinas serait là, pas du tout, je ne suis pas en désaccord loin de là avec ça, mais que l'idée d'ouverture prime sur presque l'hypostase de l'altérité, comme telle. Et évidemment, ça, je sais que ce n'est pas un discours tout à fait, on va dire, à la mode, mais je pense qu'on peut aussi essayer de travailler de ce côté-là.
Merci pour cette réponse. Je voudrais juste vous faire part, parce que je sais qu'il y a dans la salle non seulement des personnes qui partagent cette question de l'intérêt pour la médecine ou pour la folie, mais aussi des personnes qui s'intéressent à des concepts dont on entend un peu plus parler aujourd'hui. Je pense au concept de vulnérabilité, au concept de performativité, et à un concept qui nous vient des anglo-saxons, qui est le concept d'empowerment. Et en vous entendant et en essayant de faire le lien avec la question d'une traduction toujours vivifiée, il me semble qu'on a une possibilité, à partir de ce que vous évoquez sur Antigone et sur la relecture que vous proposez d'Antigone, de comprendre à nouveau frais cette question du lien. Alors, je voudrais vous permettre de faire justement cette relation en vous posant peut-être deux questions dont j'espère qu'elles vont un petit peu synthétiser le travail admirable que vous avez fait. La première, c'était, lorsque j'ai lu votre travail, c'est vrai que je me suis beaucoup interrogée sur ce rappel de la position de rupture que représente la philosophie. Alors on trouve ça effectivement chez Nietzsche en particulier, mais du coup, alors je voudrais reposer cette question d'une manière un petit peu théorique, pardonnez-moi, et puis ensuite peut-être essayer de l'illustrer en reprenant l'exemple d'Antigone. Donc la question, c'était: comment l'âme platonicienne peut-elle devenir le cœur de la métaphysique future à partir de l'effacement de la dimension de l'être mortel? Alors, excusez-moi, c'est un peu, je sais. C'est... Alors, je vais essayer de l'illustrer, si vous permettez, à partir d'Antigone, en tout cas de ce que j'ai compris de votre relecture. Il m'apparaît dans la relecture que fait Jean L'Auxerrois d'Antigone, dont il rappelle que, bon, il y a effectivement tout un tas de relectures, on le sait, Antigone, c'est un texte qu'on ne cesse de relire, d'interpréter, sans doute à la faveur de traductions particulières. Donc Jean L'Auxerrois reprend le positionnement hegélien et montre comment ce n'est pas celui qu'il va partager là. Et du coup, il nous dit en substance qu'elle est cette femme qui cherche à s'exclure, non pas pour gagner en autonomie, mais parce que cette exclusion va répondre à une autre forme d'exclusion que la loi a posée. Et que finalement, cette exclusion d'Antigone n'est là, si je vous ai bien suivi, que pour pour la relier au mortel. Et que donc, vous voyez, on retrouve cette question du lien, m'a-t-il semblé, oui. Si je vous ai bien compris.
Ça. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Donc, vous voulez que je reparte sur Antigone ?
Si ça ne vous ennuie pas, c'est peut-être ce qui...
Non, non, tout à fait. Alors, écoutez, la traduction d'Antigone que j'ai tentée repose sur, au fond, deux points. Le premier point, c'est la retraduction des chœurs, parce que les chœurs sont évidemment le cœur de la tragédie. Donc il n'y a pas de tragédie sans cœur, ce qui fait qu'on a du mal aujourd'hui même encore à comprendre quel est le sens de cette priorité du cœur, c'est-à-dire de ce commun qui travaille dans le rapport tragique à la fois au public et au héros ou à l'héroïne. Et deuxième point, ça a été une tentative de mettre en évidence que la dimension d'Antigone reposait sur la profonde compréhension du lien entre philia et mortel. Alors pourquoi cela ? Parce que la tradition d'Antigone, on va dire sans référence pour aller vite, la tradition d'Antigone, c'est d'en faire une figure de l'individualité résistante. Bon, pas de problème, on comprend. On fait d'Antigone jusqu'à Hegel lui-même, on en fait une sorte de rebelle à la communauté, incarné par Créon, au point que Hegel, qui admire cette pièce, dit que Antigone est l'éternelle ironie de la communauté. Et il incarne, alors il y a l'antiféminisme de Hegel qui jaillit, c'est-à-dire c'est la femme qui est justement rebelle à la communauté, c'est elle qui incarne l'individualité, la famille, bref, qui ne peut pas se dépasser en quelque sorte pour comprendre le commun. Je pense qu'on ne peut pas faire plus aveugle au sens de la pièce. C'est-à-dire que j'ai essayé de démonter cette langue de Sophocle. Et que nous dit cette langue ? Antigone est quelqu'un qui n'est pas simplement dans le lien familial avec le frère, qu'il faut absolument, en effet, enterrer, on comprend. Mais à travers le geste d'Antigone, ce qui se joue contre Créon, c'est le sens de la communauté. Elle dit tout simplement, si on traite ainsi les morts, et c'est ce que disait déjà Homère quand Achille traîne le cadavre d'Hector derrière son char, si on traite ainsi les morts, on exclut d'une certaine manière les morts de la cité, et nous nous excluons de notre condition de mortel. Donc si on veut en effet comprendre ce qu'est un mortel, il faut d'abord avoir honneur aux morts, et ce qui se joue, dit-elle, ça n'est pas autre chose que la sum filia. Elle trouve ce mot magnifique, où on fait parler cela dans la plupart des traductions, par l'amour. Elle dit, on dit en général, mon truc à moi, c'est pas la haine, c'est l'amour, dit-on en général. Mais elle dit pas l'amour, elle dit filia, c'est-à-dire le lien amical entre les hommes qui va former la communauté passe par le lien amical avec les morts et que ça fait un tout et qu'on ne peut pas couper en quelque sorte le vivant des morts. Et le mortel, c'est tout cela à la fois et c'est une exigence majeure parce qu'elle oppose son sens de la filia à Créon. Créon a un sens politique de l'amitié. Il dit les amis, les ennemis, moi je vois ce que c'est, etc. Il explique très bien. Son système politique est juste, mais il est à courte vue, parce que ce qui fonde véritablement la cité, si la cité ne repose pas que sur elle-même, mais elle repose sur, en quelque sorte, la profondeur de la terre, elle est incarnée dans cette réalité des morts qui permet de faire le lien, en quelque sorte, avec les dieux, avec la nécessité, avec le désordre du monde, etc. Donc, l'expérience d'Antigone, c'est d'aller jusqu'au bout de sa révolte, en effet, c'est une révolte, mais au bout de sa révolte, pour pouvoir incarner une communauté que l'on est en train de menacer. Et donc, elle fait ce choix, c'est cela le tragique aussi, parce que quand la communauté est menacée comme elle l'entend, elle, et elle le dit bien, je ne tiens... Et là aussi, c'est un enjeu de traduction, on va dire un troisième point. Je ne tiens ma loi ni des dieux d'en haut ni des dieux d'en bas. Ça, c'est aussi contraire à une grande tradition qui fait qu'on a un ou deux mots sur lesquels on discute, mais ça a du sens. C'est en moi que l'exigence est présente. Pourquoi ? Parce que je suis mortel et que dans la relation à ma propre mortalité naît en quelque sorte, pourrait-on dire aujourd'hui, une exigence de transcendance. Je ne la tiens de nulle part. Et ça, c'est important que ça n'est pas la loi, comme on dirait aujourd'hui, et souvent peut-être à l'excès, ça n'est pas la loi qui me dit de faire les choses. C'est que nous avons dans notre expérience de mortel le sens possible du commun. Et c'est pour cela que le cœur lui dit « tu es autonomos », ce que Kant va apprécier beaucoup. « Tu es autonome, toi seul, tu sais de façon autonome aller... » alors, au sens propre, autonomos, c'est tu tiens ta loi de toi-même. Alors, évidemment, Hegel hurle. Comment est-ce qu'on peut tenir sa loi de soi-même ? Oui, mais l'individu n'est pas que l'individu. Il porte avec lui quelque chose de plus haut. Si je voulais citer Pascal, je dirais l'homme passe l'homme. Antigone éprouve précisément ce qui en elle passe Antigone et la relie, évidemment, par son frère, mais à travers d'autres liens, à tout ce qui constitue une communauté. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Merci beaucoup de votre présence.
Merci pour votre présence.